Bonjour chers amis de Radio Grand Ciel, bienvenue dans notre émission consacrée à l'art et à l'histoire. Et nous avons aujourd'hui le grand plaisir de recevoir Claire Barbier qui nous fait plaisir de nous parler aujourd'hui du vêtement civil et du vêtement militaire au Moyen-Âge. Elle est doctorante en histoire de l'art et elle a déjà eu la gentillesse de faire avec nous une émission sur les représentations de l'Arche d'Alliance dont elle est une grande spécialiste. Et aujourd'hui, elle va donc nous parler des vêtements et nous avons donné à l'émission le titre « Pour en finir avec les préjugés ». Parce qu'en fait, le plus commun des mortels, il connaît le vêtement du Moyen-Âge, surtout à travers les films qui nous présentent Robin des Bois, le roi Richard Cœur de Lion avec des vêtements. Mais est-ce qu'on peut être sûr que les gens s'habillaient à telle époque de cette manière-là, comme le cinéma nous les présente ?
Alors bonjour à tous, effectivement la plupart du temps les petits clichés qu'on va avoir qui soient bons ou mauvais ça va être parce qu'on a vu des films, des bandes dessinées aussi, hein, Astérix chez les Normands, donc on s'imagine que les Vikings avaient des casques à cornes, en fait pas du tout, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qu'on pense être bons et en fait quand on regarde un petit peu d'un point de vue historique c'est pas du tout ça. Et puis ça fait un petit peu comme aujourd'hui avec la mode, bon moi qui va changer tous les ans admettons, mais au Moyen-Âge qui a duré 1000 ans, ça a quand même pas mal évolué, à peu près une ou deux modes par siècle. Et donc, quand on connaît un petit peu la forme des vêtements, on peut dater un vitrail, une enluminure, une sculpture à 100 ans et des fois à 50 ans près. Donc, c'est plutôt pas mal.
Donc, pour connaître le costume au Moyen-Âge, ce serait mieux d'étudier la tapisserie de Bayeux, j'imagine. Qui a été brodé pas trop éloigné du moment où a lieu cette bataille.
C'est ça. Donc pour le XIe siècle, pourquoi pas regarder la broderie de Bayeux, la tapisserie de l'Apocalypse pour la fin du XIVe siècle, etc. Et nous, à Chartres, avec notre magnifique cathédrale, on a la chance d'avoir un beau panel de costumes du XIIe siècle avec le portail royal et du XIIIe siècle avec tous les vitraux, évidemment.
Alors j'ai eu la grande joie de pouvoir assister à un de vos cours que vous aviez donné dans le cadre de l'histoire de l'art au Centre international du vitrail et vous amenez énormément d'objets, de vêtements, de tissus qui plongent vraiment les auditeurs dans le monde de cette époque-là. Et si on parle du vêtement, il faut évidemment parler aussi des textures, des matières qui étaient utilisées pour faire ces vêtements et vous allez sans doute pouvoir nous introduire un peu dans le monde des textiles et aussi comment on pouvait les teindre en fonction des couleurs souhaitées et qu'on pouvait obtenir.
Oui, alors je vais commencer par le commencement. Comment j'ai toutes ces connaissances ? Parce que c'est vrai que, comme vous l'avez précisé, ce n'est pas non plus tout le monde qui sait à peu près à quoi ressemblait un vêtement, je dis n'importe quoi, 1510.
Bon. N'hésitez pas à dire que voilà. Vous participez à des reconstitutions.
Et Exactement, donc tout a commencé il y a une dizaine d'années maintenant. J'ai commencé à faire de la reconstitution historique. Alors, ce n'est pas forcément prendre un déguisement et aller en fête médiévale comme ça. C'est vraiment, j'ai fait partie de trois associations qui font de la reconstitution historique sourcée. Donc on va prendre des sources sur un moment donné et puis on va croiser les sources pour construire un costume qui soit au plus proche de ce qui était à une période donnée, à un endroit donné, parce que c'est pareil, suivant les départements, les régions de France, on n'avait pas forcément les mêmes modes des coiffes ou des textiles. Et donc pour les sous-vêtements, je vais commencer par là, les sous-vêtements, tout le long du Moyen-Âge, on utilise toujours des fibres végétales. Du lin, du chanvre, de l'ortie, et typiquement dans la moitié nord de la France, c'est plutôt du lin, moitié sud de la France, plutôt du chanvre, en fonction de ce qu'on cultive. Et après, tous les vêtements, on n'a jamais porté de cuir, à part les tabliers ou quelques accessoires de type ceinture ou chaussures, mais sinon c'est obligatoirement de la laine. On n'utilise que de la laine pour les vêtements, puis après on va venir mettre des couches et des couches et des couches de laine. Donc une première robe qu'on appelle une cotte, une surcotte, des fois deux, un manteau par-dessus, une cape, etc. etc. Donc on va avoir comme ça plusieurs couches. Et puis évidemment, la robe qu'on va porter l'été sera une robe en laine fine, contrairement à la robe qu'on va avoir juste sur le sous-vêtement en hiver, qui sera en laine beaucoup plus épaisse. Et on avait toute une industrie autour de ça au Moyen-Âge. Et puis effectivement, pour les couleurs, on avait les teinturiers qui avaient leurs échoppes, leur atelier. Et puis eux, ils avaient le droit de travailler seulement deux couleurs. Parmi les trois couleurs primaires, entre guillemets, donc le bleu, le rouge et le jaune, eh bien, un atelier de teinturier pourra utiliser seulement en majeure partie le rouge et en mineure partie le bleu, par exemple. Et voilà, c'était vraiment que deux couleurs. Et en plus, on n'avait pas le droit de les mélanger dans le même tonneau, les colorants. Donc par exemple, pour obtenir du vert, on faisait d'abord un bain de bleu, on laissait sécher, puis un bain de jaune. Ou inversement, pour faire du vert. Hein. Et on avait plein de nuances comme ça. On pouvait avoir toutes les nuances de l'arc-en-ciel, même des couleurs très vives. Donc j'ai une robe qui est en framboise, vous voyez, fuchsia, assez soutenue. Et quand je suis dans la rue comme ça, on me dit « Mais je suis pas sûre pour la couleur !» Ah si, si. c'est de la garance avec un mordant spécial, mais oui, on peut avoir ce genre de couleur.
Et le plus commun des mortels pouvait porter le rouge vif? Est-ce qu'il n'y avait pas des lois qui interdisaient certaines couleurs?
Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement les couleurs les plus riches et les plus soutenues, ou plus profondes. Là, c'était les premiers bains de teinture, donc c'était ce qui était plus coûteux. Donc, c'était plutôt les gens les plus fortunés qui avaient accès. Et les derniers bains, parce qu'on ne gâche rien au Moyen-Âge, donc les derniers bains de teinture, là, c'est vraiment moins cher. Donc, c'est le commun des mortels qui va avoir accès à des tons rose pâle, bleu pâle, vert pâle, beige, marron clair, etc. Orange pâle, etc. aussi. Et puis après, effectivement, certaines couleurs étaient réservé à certaines personnes, donc c'est pas par exemple le rouge, ça va être certaines tonalités de rouge, certaines tonalités de jaune à certaines personnes, etc. Voilà,
ou la matière tinctoriale peut-être qui était réservée à tel rang social.
C'est en fonction du coût typiquement. La pourpre, ça c'est un coquillage très très rare qui coûtait terriblement cher, donc forcément c'était seulement les princes, les rois ou les empereurs qui avaient accès. Voilà, donc là, c'était le coup qui faisait.
Lorsque vous restituez donc des costumes, vous vous inspirez directement des personnages que l'on voit, par exemple, au portail royal, puisqu'on a une comtesse qui est représentée, et vous reconstituez ensuite le vêtement, en utilisant d'ailleurs quel genre d'aiguille? Une côte de baleine?
Alors, j'en profite pour finir sur le côté tinctoriel, c'est que on a la chance en Eure-et-Loir d'avoir une femme qui s'appelle Mickey, qui habite près d'Annette et qui est l'une des meilleures à travailler et qui travaille la teinture comme au Moyen-Âge, et elle en fait son métier. Donc elle a des bains de gaude, des bains de pastel, etc. C'est vraiment très très intéressant. Et donc moi, le fil que j'utilise, typiquement, je vais l'acheter chez elle. Et pour les aiguilles, je vais utiliser une aiguille en os. Voilà, avec un petit chat. Alors le chat est rond au Moyen-Âge, il n'est pas...
Alors, précisément, c'est un chat avec un S.
Oui, évidemment, qui ne fait pas miaou, hein, on est d'accord. Et puis sinon, une aiguille en métal, qui devient un peu toute tordue.
Tant qu'on peut faire quelques exceptions. On va écouter un peu de musique. Vous nous avez apporté de la belle musique.
De reconstitution.
Le groupe s'appelle
Ovoué.
Ovoué. Très bien, merci. Cette musique, elle est assez reposante. J'ai cru qu'on allait danser dans le studio. Chère Claire Babier, nous parlions, nous sommes entrés dans le vif du sujet tout de suite, les matières qui varient d'une région à l'autre, les formes des coiffes également, les couleurs qui sont toujours faites avec des plantes, vous avez parlé des bains, des teinturiers. Donc on avait à Chartres aussi, je suppose, des teinturiers. Et je sais qu'en Passeville, il y a une entreprise qui a dans sa cave encore les cuves dans lesquelles on mettait les tissus. Alors, Les costumes varient donc des personnages en fonction du rang social. Est-ce qu'il y a des vêtements que le paysan ne peut pas porter, par exemple ?
Oui, alors c'est aussi très intéressant parce que par rapport aux paysans ou à des mendiants, enfin, la plus basse classe de la population, on va avoir sur les sculptures ou sur les vitraux enluminures souvent ce qu'on appelle des chausses à étrier. Les chausses à étrier, donc les chausses, c'est comme des grandes chaussettes, sauf que pour les filles, ça va jusqu'au-dessus du genou et pour les garçons, ça va jusqu'en haut des cuisses. Et à étrier, ça fait un petit peu comme certains collants de danse, vous savez, avec le pied nu, mais finalement, il y a une petite languette qui va passer sous le pied. Chausses à étrier.
Il y avait des leggings qui
un genre de leggings, voilà, exactement. Avec
le Moyen-Âge a tout inventé. Hein.
Avec une petite partie qui passe sous le pied. Les chausses à étrier, c'est exclusivement les paysans, les bergers et les mendiants. Voilà. Et on a une sculpture au portail nord. Qui est habillé comme un roi, avec un sceptre, une cape de roi. Par contre, il a des chausses à étrier, et il a aussi une tunique, alors une cotte, robe, avec des grosses mèches très très grossières. Et ça, c'est pas du tout de la fourrure, de la belle fourrure de roi, hein. Ça c'est de la fourrure de mauvaise qualité qu'on peut voir aussi sur des représentations de paysans, de bergers.
Alors, qu'est-ce qu'on fait avec une statue comme ça pour l'interpréter ? Est-ce que c'est un roi qui fait pénitence ou un paysan qui se prend pour un roi ?
Quel est le seul roi de l'Ancien Testament qui était berger ?
Bah, David.
Ouais, bah, c'est David. Voilà.
Je suis contente. Parce que Claire Barbier est aussi guide de la cathédrale de Chartres. Nous nous croisons très souvent, d'ailleurs. Et on avait parlé donc aussi des ceintures et je me demandais, on fixait aux ceintures, les dames fixaient les clés, les aumônières, et on se demandait, enfin vous, non, moi je me demandais si le paysan avec une aumônière, parce que le paysan il était quand même un peu chiche, est-ce qu'ils avaient aussi une sorte de porte-monnaie sur eux ?
Alors les paysans, lorsqu'ils vont à la messe le dimanche, là, ils portent une cotte propre, des chausses sans trous, vous voyez ? Voilà, ils s'en dimanchent un petit peu. Et là, ils vont avoir à la ceinture une petite aumônière. L'aumônière, c'est pas la bourse. Hein. La bourse, pour le coup, c'est en cuir. C'est comme un petit porte-monnaie avec les pièces à l'intérieur. Et la bourse, on va la mettre dans l'aumônière. C'est donc un petit sac. Souvent, c'est en lin ou en laine, avec des petits pompons. Même les garçons portent des pompons au Moyen-Âge, hein, c'est pas réservé aux filles, et sa pendouille avec un petit cordon. Donc là, le paysan, le dimanche, peut porter une aumônière. Par contre, dans la vie de tous les jours, il va avoir un sac en lin assez grand pour mettre son pique-nique pour le midi, pour mettre des petites choses comme ça. Et puis autour de la ceinture, on voit souvent dans les enluminures, par exemple, comme une banane. Vous voyez la banane qu'on avait dans les années 90, qu'on peut encore porter de nos jours ? Eh bien, c'est un genre de banane autour de la taille. Et à l'intérieur, ils vont mettre les graines qui doivent semer ou des choses comme ça.
Ouais. Et le pèlerin, il cousait ses pièces de monnaie directement sur le vêtement ? Comme les compagnons qui avaient des boutons en argent avec lesquels ils pouvaient régler le logis. Donc la cathédrale de Chartres est une grande source d'inspiration, pas seulement les statues qui sont évidemment plus aisées à déchiffrer, j'imagine, parce qu'on ne les a pas restaurées. Elles sont encore dans leur contexte pour la plupart, et s'il manque des pièces, il reste suffisamment de matière. Donc le XIIe siècle permet bien de restituer, le portail royal permet de restituer le XIIe.
Et portail nord, 13e, et comme le portail sud. Et d'ailleurs, pour tout ce qui va être la tenue militaire, au portail sud notamment, on voit bien des chevaliers. Et ces chevaliers-là, si vous regardez la prochaine fois que vous passez dans le coin, d'un peu plus près, vous allez voir qu'ils sont recouverts de cottes de maille. La cotte de maille, c'est vraiment la protection qu'on a depuis l'Antiquité jusqu'au XIIIe siècle. Et seulement à partir du XIVe siècle, on commence à avoir les plaques d'armure qui vont finir par donner au XVe siècle l'armure complète qu'on imagine quand on pense à un soldat du Moyen-Âge. Donc c'est seulement le dernier siècle finalement.
Comme vous l'avez dit en introduction, grâce à l'étude détaillée des costumes, nous pouvons, dans le meilleur dater s'il n'y a pas une restitution dans le style d'eux, mais ce que ne faisait peut-être pas le Moyen-Âge.
C'est ça. Ouais. Et sur une enluminure, on peut avoir par exemple... je dis quelque chose comme ça, en petit exemple, une coiffe qui va être datée de mi-14e à mi-15e, mais à côté, il y a un chevalier qui va avoir une typologie de casque qu'on va retrouver qu'au 14e siècle. Donc déjà, en croisant les deux, on sait qu'on est sur la deuxième moitié du XIVe siècle.
Et qu'on est
peu affiné.
Pardon.
Ouais,
excusez-moi. Et qu'en est-il des vitraux? Il y a des représentations des métiers. Vous avez parlé tout à l'heure de ceinturonniers, des ceintures,
oui.
Des teinturiers.
Oui, oui, dans la cathédrale, on a vraiment la chance d'avoir une grande bibliothèque d'images du XIIIe siècle. Et par rapport aux vêtements, on va avoir les tisserands qui ont un grand métier à tisser pour partir du fil de laine jusqu'à un grand drap de laine. On va avoir les cordonniers qui ont donné plusieurs vitraux. Donc là, on les voit travailler, on les voit offrir les vitraux. Et puis, on va avoir aussi les armuriers qui sont en train de fabriquer un gros bouclier, par exemple, ou ce genre de choses, puisqu'il n'y a pas encore de pièces d'armure à ce moment-là, XIIIe siècle.
On va écouter un tout petit peu de musique avant d'aborder, entre autres, les vêtements liturgiques.
Oui.
Cette belle musique est une introduction parfaite pour notre troisième partie où nous voudrions aborder peut-être aussi les vêtements liturgiques. Mais avant, pour ne pas oublier de le faire, est-ce qu'on peut vous suivre un peu sur Internet pour les personnes qui souhaiteraient éclairer un peu leur lanterne sur l'histoire, surtout le vêtement aussi?
Oui, alors je suis auto-entrepreneur et j'ai fait un petit jeu de mots pour l'intitulé de mon auto-entreprise. Donc comme je m'appelle Claire, j'ai appelé mon auto-entreprise Éclairer l'Histoire. Et notamment sur mes réseaux sociaux, hein, que ce soit Facebook ou Instagram par exemple, vous pouvez m'y suivre hein, avec plaisir. Et je mets une fois par semaine minimum une petite information sur le Moyen-Âge, les costumes ou sur la cathédrale de Chartres, un petit détail que vous n'auriez pas vu. Voilà,
Et puis les émissions dans lesquelles vous intervenez à la télévision
pour permettre
de vous suivre, de vous écouter.
Voilà, dès que j'ai une interview, quelle qu'elle soit, je la rajoute aussi. Oui.
Donc notre webmaster va mettre ses liens sur le site, ce qui vous permet en un clic de retrouver et ensuite de mettre dans les marque-pages votre page Facebook. Alors, on a parlé du vêtement du paysan qui se distingue du vêtement du chevalier. On a vu que la côte des mailles est faite de petits anneaux qui sont imbriqués, mais ça devait durer une éternité de les fabriquer.
Oui, c'est un métier, hein. C'est clairement un métier, surtout qu'en plus pour la côte de maille, c'est pas juste des anneaux qui sont mis bout à bout, c'est des anneaux bout à bout mais qui sont riftés, donc sur chaque
côté, c'est, on peut pas les dévisser, c'est pour l'éternité.
Il y a un petit rivet sur chacun des anneaux, ce qui est énorme, mais par contre c'était très solide, et ensuite on pouvait la transmettre du grand-père à son fils, etc. Donc ça durait très longtemps par contre.
Est-ce que ces côtes de mailles protégeaient vraiment très bien contre les lances
Oui, on sait, et c'est intéressant aussi de voir l'évolution des protections avec les armes qui étaient en face, et au fur et à mesure que l'armement a évolué, la protection a évolué également, donc on est sur des évolutions à chaque fois, et typiquement jusqu'au XIIIe siècle, on pouvait se prendre une flèche sans en mourir parce qu'on avait la côte de maille et puis un vêtement en dessous qui était fait d'une quarantaine de couches de lin qu'on appelle un gambison, et c'était très résistant.
C'est comme un peu le gilet pare-balles aujourd'hui. Si la balle passe à côté, ça ne protège pas non plus très bien. Donc, paysan, chevalier et le noble, quelles sont ses prérogatives en matière vestimentaire ?
Alors, le noble, il va avoir de la laine qui est bien plus jolie, bien plus douce, d'une couleur plus profonde ou plus vive. Il va également avoir de la fourrure. Alors, attention, la fourrure, ce n'est pas la grosse peau de bête qu'on voit dans les films. Tout le monde peut avoir de la fourrure de plus ou moins bonne qualité, donc le noble va avoir de la très bonne qualité, et aussi pouvoir montrer à quel point il est riche avec un petit peu de fourrure qui apparaît au niveau des emmanchures, au niveau des cols, et les bijoux. Donc les bijoux, c'est surtout les nobles qui en portent, bien sûr, et surtout les garçons. Voilà.
Donc, en dehors des fermetures, des manteaux, ils portaient vraiment des...
Ah oui, des bagues et des colliers, voilà. Donc tout ça, c'était... les nobles et plutôt les garçons. Et puis quand on voit aussi à chaque fois les couronnes par exemple, donc les couronnes et tout ce qui était vraiment bijoux les plus précieux, ça se portait, d'accord, mais très très peu à l'année, c'était que pour le côté un peu ostentatoire d'une réunion, d'un rendez-vous.
Donc si on voit un roi avec une couronne dans son lit, il ne dormait pas avec, c'est juste pour que nous reconnaissions un roi qui dort. Est-ce qu'on voit des bijoux dans les vitraux ? Enfin, je les ai étudiés aussi, mais vous avez l'œil aguerri. Non,
alors,
justement, c'est la sobriété qui
alors,
prévaut.
Alors, on en voit un petit peu quand même. Alors, dans les vitraux...
Alors, pas des bijoux. En fait, les vêtements sont cancellés de pierres précieuses, mais ce sont les saints qui sont dans le ciel, qui expriment plutôt leur vertu.
Ouais, c'est plutôt sur les sculptures qu'on va les voir apparaître, finalement, les bijoux. Typiquement, au niveau des femmes qui, elles, vont avoir des ceintures faites en galons, ça veut dire des fils de laine ou de soie qui sont tissés, avec comme des petites broches en métal. Des fois, on pouvait avoir des pierres précieuses dessus où c'était émaillé. Et donc ça, c'est vraiment considéré comme un bijou, la ceinture à ce moment-là. Sous les pieds du Christ au trumeau, au portail sud, on a, moi je l'appelle le chevalier aux fleurs. Lui, il a dans les cheveux un petit cerclet avec une ceinture assortie. Donc pareil, considéré comme étant des bijoux à ce moment-là. On peut en trouver, ouais.
Oui. Bon, alors, il nous reste un peu de temps pour aborder notre histoire du vêtement liturgique, oui. Parce que vous aviez envie de nous parler aussi de l'évolution justement des vêtements civils vers le vêtement liturgique, ce qui
nous
intéressait beaucoup.
Ça je pense que même le clergé ne doit pas forcément le savoir, mais tous les vêtements qu'il porte pendant une messe, les chasubles et autres, ça c'est vraiment depuis le costume carolingien. Donc voilà, on est dans les années 9e siècle, etc. Et pour les hommes du clergé, ça s'est vraiment figé à cette époque-là. Et pour les femmes, donc tout ce qui va être les moniales et autres, eh bien, elles, leur costume qu'elles portent au quotidien, leurs vêtements, ça s'est figé au 13e siècle, donc costume civil du 13e siècle. Ouais. Donc si un jour vous me voyez habillée en 13e siècle, je suis habillée comme... Comme on dirait effectivement comme une moniale actuelle, mais finalement, c'est comme une femme de la vie civile au Moyen-Âge qui va à l'église.
Parce qu'on a oublié effectivement de le nommer, mais vous allez pouvoir le faire, que les femmes se couvraient toujours en fait les cheveux en général.
Oui.
Elles sortaient rarement, elles avaient une coiffe ou la paysanne, elle avait...
Alors oui, c'est ça. On a toujours quelque chose sur la tête et dans tous les cas, on n'a jamais les cheveux libres. Ils sont toujours tressés à minima avec un cerclet ou un voile. Mais la plupart du temps, on a quand même une coiffe qui recouvre la majeure partie de la tête. Et même pour les garçons, hein. Même les garçons avaient quelque chose sur la tête, un chapeau.
Alors, au portail royal, je parle sous votre contrôle. À gauche, on voit un personnage que l'on a identifié comme Abraham, et il a deux personnages qui le flanquent. À droite, c'est visiblement une femme, parce qu'elle a la ceinture qui souligne un peu son ventre, alors que le personnage à gauche semble avoir un torse masculin. Comme, en fait, le grand personnage masculin. Donc, on peut se demander pourquoi ces femmes soulignaient leur ventre. Est-ce qu'elles étaient forcément enceintes, non ?
Non, elles n'étaient pas forcément enceintes.
C'était la mode.
Mais oui, au XIIe siècle, la mode, c'est un très, très grand galon qui faisait dans les 5 mètres à peu près. Et on vient faire au minimum 2 tours. Et il fallait que ça tombe jusqu'au pied.
Un peu comme dans le film, quand même, de Robin des Bois, non ? Est-ce que vous voulez encore peut-être parler de vos restitutions? Est-ce qu'on peut suivre justement une visite guidée avec une Claire Barbier costumée?
Et oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai réussi à mêler ma passion et mon travail, donc pour mon plaisir et apparemment pour le plaisir des gens qui me suivent. Donc il y a une certaine partie de mes visites que je fais en costume, donc des visites enquêtes. Pour les enfants, pour la famille en général, pour les adultes, et aussi des visites nocturnes, des visites de la ville où je suis en costume. En fait, il suffit de me contacter et de me demander une visite en costume, et puis on voit, vous avez même le droit de choisir le vêtement que vous voulez voir porter.
Si je ne suis pas sur Facebook, comment est-ce que je peux vous joindre?
Alors, sur mon site internet, j'ai plusieurs onglets. Il y a notamment un onglet qui est mes costumes, et là, vous pouvez me voir. Voilà, on peut en discuter.
Donc, nous ne pouvons qu'inviter les auditeurs de Radio Conseil de vous suivre, de suivre une visite avec vous, de retourner à la cathédrale, de regarder un peu les costumes au portail nord, notre roi David, qui est moitié berger, moitié roi. Et si vous aimez cette émission et d'autres émissions que produit Radio Conseil, chers auditeurs, n'oubliez pas de soutenir la radio associative qui a besoin de vos dents. Et nous donnons rendez-vous à très bientôt à nos auditeurs pour une autre émission consacrée à l'art et histoire. Je remercie Simon Martin, qui est notre webmaster et aussi notre technicien, maître technicien. Et puis, à très bientôt.
Ma miette, la brunette, jolie et de mort.